Nous allons poursuivre avec la chronique de Xavier Bern, journaliste, excusez-moi, à Next Impact. Dans sa chronique, Xavier Bern nous parle de l'actualité politique et juridique du numérique. Et le sujet du jour, ça va être la lutte contre l'obsolescence programmée dans le cadre du projet de loi pour l'économie circulaire. Alors Xavier, tu es avec nous au téléphone ?
Je suis bien là, bonjour.
Bonjour. Alors le projet de loi dit anti-gaspillage arrive cette semaine à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu peux nous dire ce que prévoit ce texte, notamment afin de lutter contre ce qu'on appelle l'obsolescence programmée ?
Oui, bien sûr. Alors déjà, je voudrais quand même préciser que ce texte a été en fait déjà examiné et même voté par le Sénat au mois de septembre. Sénat qui en a d'ailleurs profité pour introduire de nombreuses mesures en lien notamment justement avec l'obsolescence programmée. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler des mesures prévues par ce texte sur la consigne pour les bouteilles en plastique ou même sur l'interdiction de destruction des produits neufs mais invendus. Mais ce projet de loi dit anti-gaspillage, qui porte aussi sur l'économie circulaire, est en fait très vaste. Et sur le sujet de l'obsolescence programmée, ce texte qui est donc à la base porté par le gouvernement contient une mesure en fait phare, c'est l'introduction à partir de 2021 d'un indice dit de réparabilité des produits électroniques. Alors l'idée, c'est un petit peu comme la fameuse étiquette énergie, vous savez, quand vous achetez un frigo ou une machine à laver, on vous donne grosso modo une idée de la consommation d'électricité avec des lettres A, B, C, etc. Et bien là, l'idée, c'est de faire un petit peu pareil, mais pour donner une note, pour informer en fait le consommateur quant aux possibilités qu'il aura par la suite de réparer le produit qu'il s'apprête à acheter. Pour calculer cet indice, alors le gouvernement pense s'inspirer en fait de la durée des disponibilités des pièces détachées, savoir si la batterie pourra être achetée ensuite pendant 10 ans, etc. Mais aussi sur le prix des pièces détachées pour que justement, parce que parfois les pièces détachées coûtent très cher et que c'est un peu inutile, enfin compliqué pour le consommateur de se dire qu'il va falloir payer une pièce détachée quasiment aussi cher que le produit neuf. Voilà, ça c'est vraiment la mesure clé qui a été proposée par le gouvernement et qui espère ainsi que les consommateurs se tourneront vers des produits plus durables, quitte à devoir payer un peu plus à l'achat. Le hic qui a été soulevé notamment par les associations de consommateurs, c'est que c'est pas parce qu'un bien est réparable qu'il est forcément durable. Et les sénateurs ont d'ailleurs bien suivi ce raisonnement puisqu'ils ont voté un amendement qui prévoit qu'en plus de l'indice de réparabilité, il y ait un indice dit de durabilité. Alors j'ai relevé aussi d'autres amendements intéressants votés au Sénat. Il y en a un par exemple qui prévoit que les collégiens vont être initiés aux techniques de réparation de mécanique et d'entretien des produits. Autre mesure qui parlera probablement aux utilisateurs de produits Apple, pour ne pas faire de publicité, il y a un amendement qui oblige les fabricants de smartphones à proposer des mises à jour de leur système d'exploitation pendant 10 ans. Voilà, je pourrais en citer d'autres, mais ça permet déjà de donner une idée de ce qui se trame actuellement au Parlement.
D'accord. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de ce qui a été voté au Sénat, même sans doute on peut aller plus loin. Et est-ce que tout ça va être conservé par les députés ou est-ce que ça va être détricoté, comme on dit souvent ? Est-ce qu'on a des pistes ?
Désolé pour ceux qui n'aiment pas les spoilers, mais la réponse est clairement que ça risque d'être détricoté par les députés. Je pense qu'il y a beaucoup de mesures qui vont passer à la trappe, tout simplement parce que le gouvernement a clairement dit au Sénat qu'il y était opposé. Par exemple, sur le fameux indice de durabilité, non plus de réparabilité, le gouvernement a expliqué qu'en fait, il était difficile d'établir des critères justement permettant d'établir est-ce qu'un produit est oui ou non durable. Est-ce qu'on parle du taux de retour auprès du service après-vente, des délais moyens entre deux pannes ? Ce sont des informations en fait qui sont pas toujours faciles à obtenir pour les pouvoirs publics et donc ensuite il y aura un problème de mise en œuvre du fameux indice de durabilité, contrairement à celui de réparabilité qui visiblement serait plus abouti, sachant qu'il y a déjà eu des travaux menés ces derniers mois sur ce sujet-là. Après, ceci dit, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer à l'Assemblée. Peut-être que les députés suivront les sénateurs. Et puis, il n'est pas rare que, en fait, quand il y a une mesure qui est votée au Sénat, ça permette à tout le moins de déboucher sur un compromis, quitte à ce que la réforme prévue soit un petit peu allégée. Et puis, je pense qu'il ne faut surtout pas oublier que les députés vont vouloir laisser leur marque sur ce texte clé. J'avoue, j'ai pas encore eu le temps de faire le tour des 1700 amendements qui ont été déposés rien que pour les débats de cette semaine à l'Assemblée en commission, mais il y a quand même des choses qui émergent. La députée Paula Forteza a par exemple fait adopter hier un amendement pour que les informations sur la réparabilité des produits ou même sur leurs caractéristiques environnementales, soient mises en ligne en open data, c'est-à-dire dans un format de publication ouvert, et ce qui permettrait par exemple en fait de les intégrer ensuite dans des applications de type Yuka, vous savez, cette application pour smartphone qui vous permet de scanner un code barre quand faites vos courses au supermarché et qui vous indique si le produit est bon ou au contraire peu recommandé pour votre santé. Voilà, il y a beaucoup d'amendements. Bon, certains n'ont clairement guère de chance d'aboutir. Je pense par exemple à cet amendement du groupe La France Insoumise qui demande carrément à ce que les publicités pour téléphone portable soient purement et simplement interdites. J'ai vu un amendement pour que, en fait, un certain pourcentage des dépenses en publicité viennent alimenter un fonds dédié à la promotion de la consommation durable. Peut-être plus intéressant, j'ai vu un amendement pour que, en fait, les batteries puissent obligatoirement être changés directement par l'utilisateur, notamment sur les téléphones portables ou sur les ordinateurs.
Ce qui aujourd'hui n'est quasiment plus possible. La dernière fois que j'ai essayé, en fait, j'ai niqué un téléphone. Je précise juste que quand tu parles de Yuka, j'encourage les personnes à utiliser évidemment Open Food Facts. On en a parlé dans l'émission Libre à vous il y a quelque temps. Comme on a un petit peu d'avance, si tu me le permets, Xavier, je vais donner la parole donc à mon collègue Étienne Gonu en charge des affaires publiques, car il a lui aussi tenté d'étudier un certain nombre d'amendements et a publié une actu sur le site de l'AFRIB. Donc, il a peut-être envie de compléter sur les amendements intéressants donc à l'Assemblée nationale. Étienne, c'est à toi.
Oui, tout à fait. Donc nous, on a agi, on avait déjà fait une émission pour parler d'obsolescence logicielle. Donc on a proposé plusieurs amendements pour lutter contre cette problématique. Xavier, tu citais, alors effectivement, parmi les ajouts, les apports des sénateurs et sénatrices à ce projet de loi, effectivement, cette idée qu'on peut presque qualifier, je trouve, de rétrocompatibilité, c'est-à-dire que les fabricants de terminaux mobiles, que ce soit les tablettes ou téléphones, doivent mettre à disposition et assurer la compatibilité des mises à jour pendant 10 ans sur toute leur gamme de produits. Alors nous, voilà, on avait trouvé de l'approche intéressante, mais on avait une crainte, voilà, pour certains projets comme le Fairphone, comme Librem, qui sont des projets, voilà, qui est vertueux, on va dire, basés notamment sur du logiciel libre et du matériel libre. Donc nous, notre contribution, on avait proposé une contribution, on avait eu beaucoup d'autres à partir de cette disposition pour, voilà, garantir, normalement, considérer que s'il y avait, voilà, que les codes sources étaient accessibles, en gros, si c'était sur du logiciel libre, que les logiciels étaient librement modifiables et partageables. Dans ce cas-là, finalement, l'objectif était intrinsèquement atteint puisque ça apportait, voilà, des garanties structurelles de durabilité, même si elles ne suffisent pas en elles-mêmes, elles apportent au moins cette brique fondamentale. Et donc c'était une manière d'apporter et d'enrichir le texte. Et ce qu'on a pu voir sur cette disposition, c'est qu'il y a eu donc de nombreux amendements. Ils ont tous été déclarés irrecevables, donc à la discrétion, on va dire, de la commission, au seul profit de l'amendement de la rapporteure pour les affaires économiques, en l'occurrence, et une manière un petit peu, finalement, de taire et d'arrêter un débat en cours, d'arrêter un processus de construction. Et ça, on a pu le regretter. Ça, voilà, on en parle dans l'actu, mais on voit la difficulté d'un texte aussi ambitieux dans la lettre, et malheureusement, dans les débats, on va voir où ça peut nous mener, mais on attend, en tout cas, voilà, de voir.
Xavier, tu veux compléter ?
Oui. Non, ça me semble bien. Voilà, si dans ce sujet-là, et puis je ne l'ai pas mentionné, mais vu qu'on a un petit peu de temps, il y a une mesure aussi sur qui vise en fait à instaurer une sorte de droit à la réparation. En fait, plus exactement, les sénateurs ont souhaité que soit interdite toute technique et éventuellement logicielle qui vise à rendre impossible justement la réparation d'un appareil en dehors des circuits agréés. Voilà, je pense ici aussi que les propriétaires de certains smartphones verront à quoi il est fait allusion au travers de cet amendement.
Tout à fait.
Oui, d'ailleurs, c'est un amendement que nous, on a proposé un amendement qui a été repris par le député Vincent Thiébaud, et qui en fait s'appuie sur cette avancée-là. On va essayer de nous proposer, alors c'est une vieille problématique, je pense que de nombreux libristes ont conscience, c'est l'existence de certaines, ce qu'on appelle nous, des restrictions d'installation logicielle, donc une manière générique de décrire, voilà, une pluralité peut-être de mesures techniques, mais là en particulier, nous, on peut penser au phénomène Secure Boot, hein, donc cette couche logicielle dans les cartes mères des ordinateurs qui ne permet en réalité d'installer uniquement le système d'exploitation de Microsoft, le système d'exploitation Windows, qui est une atteinte évidente aux libertés informatiques et un frein tout aussi évident au reconditionnement et à la réutilisation, à la durabilité des équipements. Et en fait, voilà, nous, on s'est appuyé là-dessus, donc c'est une des manières dont on peut essayer de contribuer au débat.
Et donc, je précise qu'il y a une actualité sur le site de l'April, donc april.org, avec les amendements enfin, qui nous paraissent intéressants donc, de ce point de vue-là. Bien sûr, je ne doute pas que Next Impact publiera une actu détaillant l'ensemble des amendements. Peut-être une question pour les personnes qui nous écoutent. Quand est-ce qu'a lieu l'examen du texte à l'Assemblée nationale, Étienne?
Alors, il a commencé en commission développement durable. Alors là, nous, la plupart des amendements qui nous intéressent sont après l'article 4. Il y a plusieurs articles 4 dans différentes versions, 4 bis, 4 ter, quader, CD. Enfin voilà, il y a toute une gamme de nouveaux amendements, de dispositions notamment qui viennent du Sénat. Donc on peut imaginer que ce sera que ce qui serait que ces dispositions pardon seront discutées mercredi ou jeudi. Donc là, normalement, là, il y a l'agenda qui est en ligne là, pour retrouver justement dans notre actualité. Et de mémoire, les discussions en séance publique, Xavier pourra peut-être confirmer ou infirmer, c'était entre le 9 et le 16 décembre, je crois que ça avait été discuté en
Oui,
ce
c'est
sens.
ça. C'est ça.
D'accord, donc l'occasion de rappeler que les débats à l'Assemblée nationale, que ce soit en commission ou en séance publique, sont diffusés. Alors souvent, ça peut se terminer très tard le soir, voire très tôt dans la nuit, mais en tout cas, on vous encourage à les écouter parce que c'est souvent d'une grande qualité, parce que les personnes qui interviennent, alors, il faut pas toujours être choqué du fait qu'il y ait peu de parlementaires qui sont en hémicycle ou en commission, hein, c'est le travail parlementaire qui est comme ça. Il faut plutôt se satisfaire et se féliciter de la qualité des échanges et que, même si effectivement à l'Assemblée nationale, il y a un groupe qui est ultra majoritaire, il n'est pas impossible que des parlementaires obtiennent soit de sauver des amendements à Sénat, soit voter des amendements qui renforcent la lutte contre l'obsolescence logicielle notamment. Donc je vous encourage vraiment à suivre ces débats donc à l'Assemblée nationale. Et évidemment, on vous fera un compte-rendu la semaine prochaine ou lors d'une émission dédiée sur ces sujets-là, quoi. Xavier, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur ce sujet?
Non, juste voilà, en termes de procédure, du coup, c'est la première lecture qui se joue en ce moment, c'est-à-dire que du coup, une fois que l'Assemblée aura voté le texte, devrait se réunir ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, en fait, ou une instance où siègent 7 députés et 7 sénateurs qui tentent de trouver un compromis sur le texte qui vient d'être voté. S'il y a un compromis, eh ben, après, on va dire, c'est entériné très rapidement par les deux chambres, mais sinon, on repart pour une navette parlementaire, mais en sachant que l'Assemblée nationale, là, aura le dernier mot.
Oui, tout à fait. Étienne, est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Peut-être oui, préciser que mais en fait maintenant c'est devenu la procédure normale, là on a une procédure accélérée. Normalement, il est censé y avoir 2 lectures dans les chambres qui permettent d'avoir un débat plus, enfin voilà, un texte plus abouti, mieux construit, mais voilà, on peut regretter que maintenant la norme soit de cette lecture simple dans chaque chambre.
Pour les personnes que ça intéresse d'approfondir ce sujet, je vous invite à écouter le Libre à vous du 17 septembre 2019. Le sujet, c'était obsolescence programmée et projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Donc avec Adèle Chasson de Halte à l'obsolescence programmée, Frédéric Bordage de greenIT.fr et mon collègue Étienne Gonu. Donc vous pouvez l'écouter, vous retrouverez le podcast sur le site april.org ou sur le site de la radio causecommune.fm. Bah écoute, Xavier, je te remercie pour cette chronique et puis on se retrouve alors pas le mois prochain, mais on se retrouve en 2020 pour la prochaine chronique Parole libre de Xavier Berne. Je te souhaite une belle journée.
Merci, par exemple.